Vous écoutez
RMC.
RMC.
Il va falloir qu'il bosse. Je suis déjà content là. Philippe, il a toujours convoqué demain matin à 8h. Et encore, il est gentil. Parce que moi, ça serait demain matin à 6h. C'est honteux ce que j'ai vu aujourd'hui. Je me réserve parce que je vais exploser.
Putain de merde. Sérieux.
Jusqu'à 1h.
L'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Et oui, on est là jusqu'à 1h du matin, exceptionnellement ce soir, avant-dernière journée de Ligue 1. 10 matchs ce soir, vous le savez. Et on n'a pas encore parlé de tous les matchs. On va le faire avec Daniel Riolo, avec Lionel Charbonnier d'ici 1h. Ce sera aussi comme ça la semaine prochaine, hein, d'ailleurs, pour la dernière journée de Ligue 1. Alors, si vous n'étiez pas avec nous pendant cette première heure, je vous rappelle que Christophe Galtier a dit, je cite, « Je pense mériter une seconde saison au PSG parce que je me suis donné à fond. J'ai su tenir le cap dans les moments difficiles. Une saison catastrophique au PSG, c'est quand il n'est pas champion. Et là, on est champion. Oui, j'estime que je mérite de continuer. » Voilà ce qu'a dit Galtier. Je précise également qu'à Lens, on a joué la musique de la Ligue des Champions ce soir à Lens pour fêter ça. Et bien sûr, Lens qui sera directement qualifié en phase de poule. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'adversaires potentiels de l'OM. Deux tours de qualif, hein, le troisième tour de qualif pour l'OM et l'éventuel barrage si ce tour est passé. Voilà quelques noms de clubs que l'on connaît déjà qui seront des adversaires potentiels de Marseille. Panathinaikos, le club grec. Les Glasgow Rangers, les Écossais. Le club autrichien de Graz, le Sturm Graz. Braga, club portugais, adversaire potentiel. On attend le nom du club hollandais, du club serbe, de l'ukrainien, du belge et du suisse, qui pourrait être le Servette de Genève d'ailleurs. Bon voilà, vous savez, c'est toujours pareil, c'est la voie, ce qu'on appelle...
La voie des champions, non. Ou la voie de... C'est quoi, comment
c'est,
ça pas
la voie, c'est la voie de la Ligue, c'est-à-dire la voie des champions, justement, c'est souvent les plus petits pays. Donc là, c'est pour ça que c'est dur. C'est que souvent, c'est les deuxièmes ou troisièmes de gros pays qui se retrouvent dans les barrages. Donc voilà la liste qu'on connaît pour l'instant pour l'OM.
Bon. D'accord.
Mais on n'en sait pas plus pour l'instant.
Ça fait flipper, hein.
Ah bah, je te rappelle que l'an dernier Monaco n'est pas passé, hein. Ils se sont fait sortir.
Exactement, hein, ça fait flipper. On peut se faire, on a vu qu'on se faisait en France, on pouvait se faire sortir par n'importe qui.
Ces dernières années,
ça fait flipper.
On l'a vu souvent. Dernière info marseillaise qui va peut-être contrarier quelques supporters de l'OM, mais Balerdi, qui est un des joueurs les plus contestés de la saison, a été convoqué par Scaloni en sélection argentine. Donc Scaloni, lui, il estime que Balerdi est bon. Et il l'a pris avec l'équipe donc des champions du monde.
Bah, visiblement, l'Argentine l'appelle, l'entraîneur le fait jouer,
ouais.
mais tout le monde le trouve mauvais. Ouais, okay. Moi, je trouve que c'est un petit peu bizarre. Mais
ouais, c'est un peu
il y a eu un peu de bashing quand même. Hein. Ouais. Mais l'OM, de toute façon, suscite tellement de réactions. Puis c'est un club qui passionne les foules que forcément, dans toutes ces réactions, il y a une majorité de conneries. Oui.
Ah, alors attention, parce que
entre tous ceux qui se battent pour savoir si c'est échec ou réussite, mais attends, si ça les arrange, ceux qui veulent que ce soit un échec, mais on peut leur dire que c'est un échec, et ça va changer quoi en fait? Après, qu'est-ce qui se passe? On va se foutre tous à poil sur le vieux port, on se met des plumes dans le derrière, on se taille les veines. C'est quoi le truc en fait? C'est quoi le truc d'aller de dire c'est une réussite, c'est un échec? Ça va leur apporter quoi à tous ceux qui sont en train de kiffer qu'on dise que c'est un échec la saison de l'OM? Ça va être quoi leur plaisir une fois qu'on leur a dit? C'est-à-dire, on va encore répéter que dans une saison, tu as 20 équipes en Ligue 1, il va y en avoir que deux qui ont fait une bonne saison au final. C'est ça le truc. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre?
C'est une question de mots. Quand Rongier dit.
Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre en fait,
Gilbert? Lui, je voyais deuxième en fait. Tu vois.
Très bien, et une fois que tu as dit que c'est un échec, il se passe quoi après? Je sais pas, il se passe quoi en fait? Vas-y, il se passe quoi?
Après, tu passes à la suite.
Dites-moi, il se passe quoi? Pour moi, c'est des débats à la con. La seule analyse qui tient, c'est on a fait deux, on fait trois, on était en Ligue des Champions. Qu'est-ce qu'on va faire cette année? Comment on travaille pour améliorer l'équipe? Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas été bon à domicile. Pourquoi? Tu l'as dit, Lionel. On avait un problème de talent devant. Est-ce qu'on a eu un avançante? Non, on a été obligé toute l'année de faire jouer Alexis Sanchez dans cette position-là parce que les deux autres n'étaient pas là. On a quand même connu des bons moments cette année. En Coupe d'Europe, je sais qu'il y en a plein qui veulent pas l'entendre. C'est pas grave. Alors, t'es passé de la deuxième place de la poule à la quatrième place juste pour un coup de tête cadré, pas cadré. C'est pas grave. On n'a pas le droit de le dire, ça. Très bien, quatrième dans un groupe d'Europa League. La connerie, mais la connerie monstrueuse.
Tu perds contre Annecy.
Je vais terminer. La connerie monstrueuse, mais j'en peux plus d'entendre les abrutis, parce que je les appelle pas autrement, qui disent que c'était un groupe d'Europa League. Dans les groupes d'Europa League, les équipes françaises ne sortent pas. En Europa League, on perd contre Shakhtar, on perd contre tous les tocards de la Terre, et il faut dire que c'était un groupe d'Europa League et que c'est grave d'avoir fini quatrième. Mais vraiment, quand on a décidé qu'il fallait taper sur l'OM, parce qu'évidemment, les Parisiens pas contents, les Lyonnais pas contents, on a le droit d'avoir un regard un peu objectif sur les choses. Et après, savoir si c'est échec, réussite et tout. Mais qu'est-ce que je m'en fous? Ils doivent juste savoir comment progresser encore. Lens a fait une saison stratosphérique. L'OM termine avec plus de points que l'année dernière quand ils ont fait 2. Est-ce que c'était mieux avec Sampaoli ou mieux avec Tudor? Moi, j'ai kiffé Sampaoli. Il y en a plein qui le détestaient. Ils ont changé. Ils ont fait la gueule quand Tudor est arrivé. Quand ça marchait bien avec Tudor, tout le monde était content. Le style, ça va de l'avant. Le style dynamique, le style, on fait rouleau compresseur et tout. Dès que ça s'est moins bien passé, non, Tudor, c'est pourri. Il faut jeter Tudor. Attends, c'était mieux avec Sampaoli? Non, j'ai pas dit que c'était mieux avec Sampaoli. Bon alors, il faut quoi, putain? Il faut Punaise. Quoi au bout d'un moment? Il faut quoi pour que les mecs soient contents? Qu'est-ce qu'il faut? C'est moi, je ne comprends pas. En fait, en France, il y a juste l'unanimité quand il y a un petit club qui brille. Moi, j'aime bien que Lens fasse deuxième. J'ai kiffé, tout le monde a kiffé Lens. Voilà, ça, il y a unanimité. La France, c'est ça. C'est le pays du petit. Le pays du petit.
Tu découvres ça maintenant, toi.
Mais j'en peux plus de cette attitude de merde. J'en peux plus. Ça me gave au bout d'un moment. Lens, très bien. C'est génial. Là, on est tous contents. Mais pour le reste, non. Pour le reste, non. Non, ça, non. Ça, c'est... Voilà.
Non, c'est plus une prise de conscience dans ce que dit Rongier, je pense, Daniel. C'est la prise de conscience, on n'a pas fait. C'est-à-dire que tu es deuxième du...
Mais je suis d'accord, moi, avec Rongier, Lionel. Je suis d'accord. Moi, j'aime toutes ces analyses de Rongier. Mais tu as la moitié des mecs qui disent que c'est un tocard, Rongier, dans notre pays.
Mais après ils disent ce qu'ils veulent. On parle sans parler que c'est un tocard qui a dit ça ou pas un tocard. Ce qu'il veut dire par là, c'est que tu perds contre Annecy, tu perds en Champions League, tu gagnes pas un match.
Eh ben c'est un échec la saison Lionel. Ok, c'est un échec. Deuxième. Ça fait plaisir. Non. Ok, c'est très bien. Non. C'est un échec. Qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Je sais pas. Je peux pas dire ce qu'il faut faire.
C'est un échec.
Je peux pas dire ce qu'il faut faire. J'aimerais le dire.
Non mais c'est un échec. C'est bon. On va tous se tailler les veines. C'est un échec. Ok, super. Voilà. Allez, c'est un échec. La saison de l'OM, c'est un échec. Génial. Je suis content, moi. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, que ce soit un échec, une réussite et tout? C'est très bien, c'est un
échec. Tout à l'heure, on a eu un auditeur lançois qui a dit le RC Lens,
c'est une réussite.
Le RC Lens était dans une position d'échec il y a encore 4-3 ans. On a su rebondir. Le fait de prendre conscience déjà, parce que t'as des clubs qui sont en situation d'échec actuellement, qui sont pas forcément à l'OM, mais qui ne se rendent pas compte qu'ils sont en situation d'échec. Et donc, ils ne progressent pas.
Le PSG, sont dans quelle situation? Combien de fois les analyses des échecs année après année? Et Lyon, ils sont dans quelle situation, Lyon? Parce que si à l'OM, ils doivent souffrir et tous se jeter dans le vieux port, mais
le principal, c'est de prendre conscience déjà, que tu es en situation d'échec parce que tu donnes pas de plaisir, on l'a entendu, Manon.
On peut la relativiser, la situation d'échec de l'OM quand même, quand tu fais troisième dans le championnat. Pour toi, c'est un échec total, catastrophique. Non mais là vraiment mais, là,
non entre pas là, trop là. Et catastrophique non, tu vois il y a
alors mais eh ben alors, j'ai putain, pas mais j'ai alors, pas dit je sais c'est... pas ce qu'ils vont
est-ce
faire
est-ce que tu m'as entendu
dire je sais pas ce qu'ils vont faire
Daniel,
je pense qu'on va passer au suicide collectif à Lyon et Monaco.
Est-ce que tu m'as entendu dire que c'était une situation catastrophique? Non, je ne l'ai pas dit. Par contre, de prendre la décision et d'être conscient qu'on n'a pas tout fait bien,
il faut virer l'entraîneur ou pas?
Peut-être, okay. Parce que c'est ce que je voulais te dire tout à l'heure. Justement, et tu l'as dit, l'OM n'est pas capable d'avoir
donc,
un effectif
conséquent pour cet entraîneur. Quand c'est un entraîneur français, on lui laisse 2 saisons. Mais là,
Mais tu peux reprendre un étranger si ça te fait plaisir, Daniel. Tu prends qui tu veux. Mais ce qu'il faut, c'est mettre un entraîneur à la hauteur des moyens de l'effectif que tu peux lui donner.
C'est terminé. Merci. On passe à la suite.
Non, il ne faut pas dire des choses qu'on fait.
J'ai dit, on passe à la suite.
Quand on ne dit pas des choses...
Mais vous m'écoutez ou quoi? Je coupe vos micros. Bon, m'obligez pas à le faire.
Moi, tu peux pas, je suis loin.
Mais tu peux pas, comment micro, tu fais pour me le couper pas, c'est très facile. Il suffit de demander au réalisateur, j'ai coupé les micros et hop, c'est terminé, vous êtes plus là. Donc maintenant, vous vous taisez. Passons à la suite. La course à la 4e place et ce soir, gros coup de Lille et de Rennes qui passe devant Monaco. On va en parler maintenant, les gars, avec Paul qui est supporter rennais. Salut Paul.
Ouais, bonsoir à toi Gilbert, bonsoir à Daniel et bonsoir à Lionel.
Bon. Ah Paul, t'es supporter de Monaco?
Salut
Paul.
Rennes.
De Rennes.
Ah de Rennes. Ah de Rennes. Ça va mieux. Non, je pensais que c'était Monaco, pardon.
Oui. Alors égalité de points. Non, un point de moins que Lille, pour les Rennais. T'as suivi le match ce soir. Qu'est-ce que t'as pensé là de la victoire rennaise?
Ouais, j'ai supporté Rennes de chez moi ce soir, parce que c'est toujours compliqué d'avoir des
2-0 places, contre Monaco, je rappelle. Hein. C'était le match important pour l'Europe, là.
Ouais, match important pour l'Europe. On était dans une situation, c'est même incroyable de jouer encore l'Europe après les quelques mois qu'on a vécu où l'irrégularité était de mise chez nous. Donc, écoute, on va se satisfaire de ça. Après, j'ai pas envie de réénerver Daniel. Donc, je vais faire attention à ce que je vais dire.
Non, mais ça va être pour Rennes, en revanche, comme c'est plus petit, ça va être formidable. Il y a eu des dépenses depuis 2 ans sur le marché des transferts importantes. Il y a eu une humiliation en Coupe d'Europe et il va peut-être y avoir une quatrième place. Mais ce sera la fête au village. Rennes, ça peut être la fête au village. Là, c'est bon. Là, on sera dans la réussite totale. Tout le monde va faire la fête. Ça va être champagne. Ça va être carnaval. C'est bon. Là, Rio de Rennes, ça va être. Allez, c'est parti. Tu peux ouvrir le champagne, là. T'es fait taper par le Shakhtar, là, dans un match grotesque. Mais c'est pas grave, ça va être la fête. Là, t'inquiète pas, en France, ce sera une réussite, Rennes.
Daniel, je vais aller plutôt dans ton sens. J'essaye d'être mesuré, de regarder, justement, tu l'as dit très justement, au niveau des moyens employés, etc. Je trouve que, on n'est pas encore qualifié, il reste le match à Brest.
Exactement.
Vu la saison, on est capable aussi de tout perdre sur le dernier match.
Non, là, je pense que vous êtes bien, là, je pense. Il y a une bonne fin de
saison. Il faut faire attention. Je pense qu'il faut être dans la mesure.
Brest, très compliqué.
Et après, moi, je suis plutôt d'accord avec toi. Il y a quand même beaucoup de points d'interrogation sur. Je suis passé quelques fois avec vous. J'étais vraiment pas content de la méthode. Et on revient quand même à des fondamentaux à Rennes. La saison qui nous a plu l'année dernière en tant que supporter rennais, quand vraiment on voulait prendre un peu de plaisir en allant au stade, et ben c'était la saison dernière qu'on a vraiment pris du plaisir. On revient bizarrement à un système plus équilibré à Rennes avec beaucoup plus de certitude pour certains joueurs. Je veux notamment parler de Maillère qu'on va peut-être perdre et d'autres hein, parce que Bruno en a perdu dans l'année, hein, Tay, etc. Il s'embrouille avec beaucoup de monde, je pense, et ça serait bien aussi de faire un point là-dessus en fin de saison. Ce que j'ai peur, c'est que il sera conservé, parce que si on arrive à se qualifier, voilà, ça va être comme tu dis, ça va être la fête au village, et j'ai peur qu'il n'y ait pas aussi une remise en question. Alors pourquoi pas le garder, hein, mais j'espère qu'il verra que son point de vue assez obtus dans l'année où il s'est cherché, où il a changé des systèmes, on a crié au génie quand il a réussi à battre Paris, alors que c'était catastrophique sur le terrain. Moi, j'ai pris aucun plaisir, un peu plus au retour, mais à l'aller, c'était catastrophique. Mais pourtant, voilà, on lui a tiré des grands éloges avec son 5-3-2, enfin 3-5-2, peu importe. Mais c'était moi, dans l'ensemble, j'ai vu une équipe de Rennes avec beaucoup de moyens en début de saison qui aurait pu se permettre...
Il y a une possibilité donc de terminer, pourquoi pas, on ne sait jamais, quatrième, en cas de victoire la saison.
Franchement, ce serait une belle fin, au-delà de ma colère. Ce serait une belle fin après les trous qu'il y a eu dans la saison. Quand
mais
même,
quatrième, hein. Si t'es Rennes, t'es plus ou moins à ta place, quoi, non?
Oui, je pense que t'es bien. Tu peux, à un moment, on a espéré le podium et tout, mais quatrième, ça veut dire que tu inscrit le club, et c'est pour moi la même réflexion,
et c'est l'inscription aussi, au fond.
Pour moi, c'est l'inscription dans la durée. C'est pour ça que l'OM, je disais la même chose, c'est Ligue des Champions l'année dernière, peut-être encore cette année puisqu'on ne le sait pas, on le saura que fin août. C'est la continuité, quel est le travail que tu mets en place, comment tu fais pour progresser. Rennes, j'ai beau avoir détesté leur deuxième partie de saison et surtout cette élimination contre le Shakhtar, s'ils arrivent à décrocher cette quatrième place, ça veut dire qu'ils refont Europa League directement phase de poule. Moi, ça me va, ça me plaît. Pour la dimension du club, c'est positif. C'est l'histoire continue. L'histoire continue.
Je suis d'accord. Par contre, Daniel, il faudra, s'il repart une année suivante, après ce qu'on a vu, j'espère qu'on pourra aussi tirer des enseignements et qu'il apprendra de ses erreurs. On a perdu beaucoup de points, pas dû aux joueurs qu'on lâchait. La preuve, ils sont encore là à une journée de la fin. Donc, c'est pas les joueurs qui posaient problème. Il faudra poser des questions sur le recrutement. On a beaucoup attendu Kim, qui, à vrai dire, fait une grosse saison avec le Napoli, donc il s'était pas trompé sur le profil. Mais si on reprend toute l'histoire, les Laborde qui partent, les Kim qu'on attend qui sont jamais venus, il faudra tirer des
L'argent dépensé, hein, il y a eu beaucoup d'argent dépensé en transfert à Rennes.
Kalimuendo, il y a un gros point d'interrogation. En tout cas, il y a des choses à tirer sur la fin de saison, donc on va attendre la semaine prochaine, et croyez-moi que je vais être le premier supporter. Même si je serai plus dans le sud de la France que à côté de la Bretagne, mais je vais regarder ça ardemment et je vais espérer une qualification, puisque comme tu dis, je suis d'accord avec toi, l'essentiel c'est de se requalifier. On est à notre on est à notre place, hein, on n'est que Rennes encore, donc il y a encore un peu de temps avant que ça prenne. Il ne faut pas casser la dynamique, mais j'espère que les dirigeants vont tirer aussi des leçons sur comment ils sont comportés, parce que voilà, Bruno nous a coûté aussi beaucoup de points, et c'est voilà, c'est il faut le dire aussi, je pense.
Il y a eu un gros passage à vide de sa part avec une réflexion sur j'arrête, je continue. Bon, maintenant, finalement, il s'est calé sur je continue. Mais il y a eu un énorme passage à vide où il n'y avait plus rien à Rennes. Il ne se passait plus rien. Le jeu, on reconnaissait plus l'équipe, on reconnaissait plus les joueurs. L'entraîneur, on a l'impression qu'il ne dirigeait plus l'équipe. Ça a été un gros trou noir.
Pour moi, il y a eu un gros passage à vide de l'effectif rennais et de Bruno. À partir du moment où, un, en début de saison, Terrier n'est pas en forme, et ensuite, deux, lorsque Terrier s'est blessé, il a voulu remplacer Terrier par un mec, et il s'est rendu compte, il a pensé trop longtemps que, en fin de compte, et notamment, je crois que c'est Guiri qui l'utilisait beaucoup plus côté gauche, ne faisait pas l'affaire. Il a tergiversé. Après, il a fallu qu'il change de système. Et depuis à partir du moment où il a changé de système, et il a mis longtemps dans sa réflexion, trop longtemps, c'est ce qui a coûté des points, et c'est sûrement ce qui coûte la quatrième place pour l'instant. On va voir, parce que attention, Brest-Rennes contre Monaco 3. C'est pas fait. Hein. La quatrième place rennaise, elle est loin d'être acquise. Donc, même si Monaco, on croit qu'ils ont lâché, ils vont battre 3. Donc, il va falloir que Rennes fasse un gros match. Et donc, je pense que c'est à partir du moment où Genesio a pris conscience que Terrier ne pouvait pas le remplacer par un joueur, mais par un système. À partir de là, c'est allé beaucoup mieux dans l'effectif. Mais ça, il a trop tergiversé, effectivement. Mais combien d'entraîneurs n'auraient pas fait comme lui ? Terrier, franchement, moi, quand je le vois jouer, à la base, je me dis, putain, c'est pas Zidane. C'est pas un mec que tu remplaces par un autre. Enfin, moi, je le voyais pas comme ça. Et bien, en fin de compte, c'était ça.
Un truc à rajouter, Paul ?
Bah, écoutez, tout a été dit. Je vais juste rajouter pour dire à Daniel le côté où il a tergiversé notre ami Bruno. Je pense aussi que ça commence à chauffer dur pour lui, et qu'il a aussi prévu une porte de sortie en disant, voilà, il y a peut-être une petite lassitude, parce que c'est une de vos infos RMC que vous aviez sortie, en disant l'entourage dit qu'il est fatigué. Moi, je pense que c'était pour préparer au cas où si ça tournait un peu mal, je pense.
Bon. Merci Paul. À suivre la semaine prochaine, je rappelle, hein, le scénario, donc les Rennais vont à Brest, qui ne jouent plus rien, et les Lillois vont à Troyes, qui ne jouent plus rien. Je sais pas comment vous le sentez. Il y a un point d'écart entre les deux.
Brest qui ne joue plus rien vient de battre l'OM. Hein.
On vient. Non mais on peut quand même penser que Lille a quand même la main, quoi. Ils ont un point d'avance. Ils jouent à 3.
Bah ouais. Bah oui.
Voilà.
D'ailleurs les Lillois ce soir, là, vous avez peut-être pas vu les images, mais à la fin du match, grosse fête. Hein, Fonseca, tout le monde s'est sauté dans les bras, comme si voilà.
Y avait, ouais, moi je trouve qu'il y a rien de fait là pour cette place là. Hein. C'est et le côté. Le côté qui n'a plus rien à jouer, je sais pas. De toute façon, on a vu, on en parlera tout à l'heure avec ce qui s'est passé en Allemagne.
Des fois, ça te libère,
comme,
hein, Daniel. Hein.
Comme Lionel dit, Brest, ok, ils font un match. Alors, c'est vrai que l'OM a été mauvais, mais ils vont chercher la victoire là-bas. Des fois, il n'y a rien à jouer, on ne comprend pas trop ce que ça procure comme sensation et ce que ça fait faire aux équipes.
T'as vu qu'il y a le but de la victoire. Le Hugo Magnetti qui était avec nous l'an dernier quand on a fait la tournée de l'After. L'After est dans le pré à Burel. Il était là, c'est son club, c'est un Marseillais. Et il a plombé l'OM. C'est pas beau, franchement. Bref. Mais oui, t'as raison, effectivement, peut-être qu'il jouait libéré. C'est ça qui
a fait. Ah, faut se méfier.
Bon. Là, la quatrième place, elle est à Lille. Hein. Y a pas de raison qu'il lâche le truc, en fait. Hein. Mm.
Justement, tiens, Lille, on en parle avec Alexis qui est là. Salut Alexis.
Oui, allô.
T'étais au stade?
Ouais, j'étais au stade. Déjà, en fait, je vais juste vous parler de 3 secondes. Je suis un peu ému parce que moi, j'ai 19 ans et je vous écoute depuis que j'ai 15 ans.
Ah, donc, super.
Voilà, c'est un peu... c'est un grand moment pour moi, un peu, je vais dire.
Ah bah, écoute,
ne sois pas ému, sois heureux de parler à Lionel Charbonnier, champion du monde.
tu es chez non, toi.
Ouais. Et champion de France, surtout.
Chez moi, sans problème. Mais du coup, en fait, voilà, je vous appelle parce que je suis allé pour la première fois au stade. Et je me suis dit, pour fêter ça, je vais appeler l'after. Et en fait, genre, j'ai 3 points un peu qui me surmontaient.
Allez,
le premier point, c'est que j'ai vu des Nantais. Vraiment, les Nantais, ils m'ont assez impressionné. Notamment parce que j'ai trouvé qu'il y avait un vrai état d'âme, quoi. Ces quatre derniers matchs, ils étaient vraiment pas bons. Et là, je trouve qu'on a commencé à avoir la
patate. Oui, on a peut-être vu le meilleur match de Nantes depuis très longtemps.
Le problème, c'est que c'est trop tard, quoi. C'est complètement aberrant, en fait, de les avoir vus être bons comme ça pendant une mi-temps. Là.
Après, l'effectif a changé, hein. L'entraîneur a dit, comment il s'appelle, Aristouille,
ouais.
Disait qu'il y avait des...
Oh, on dit comme ça, Daniel.
C'est
ah
ça
ouais,
ouais.
Mais oui. Ah, je savais pas qu'il fallait le dire comme ça.
Ouais.
Mais si. Et donc, il a changé des joueurs, mais même des cadres, hein, qui disaient, ils ont peur. Ils ont peur de jouer. Ces cadres-là ne sont pas bien, les Palois et compagnie. Or, que des mecs sur lesquels tu te disais, bah, non, on va s'appuyer dessus. Eh ben non, lui, il les a dégagés et il y a eu un supplément d'âme ce soir. Je suis d'accord que Nantes n'avait pas montré jusqu'à maintenant.
Mais ça n'a pas suffi.
Bah, ça n'a pas suffi, mais... Attention, moi, je ne suis pas serein en tant que
bon, mais parlons de Lille, là, parce que Nantes, on en parlait tout à l'heure. Là, Lille, bon, c'est quand même l'opération super du soir, Alexis. T'es content, non?
Ah, bon, je crois qu'on l'a perdu là. Il est trop ému, il a cassé son téléphone.
Oui, ou ouais, alors il s'est fait interpeller par quelqu'un, je sais pas. Bon, c'était sa première.
Il a gâché sa première.
Parlons-en sans lui, parce que Lille, toute la saison, on a été assez critique avec Lille. Un coup, on voyait les matchs super, un coup, ils passaient à côté.
Comme leur match aujourd'hui. Première mi-temps dégueulasse.
Et au final, ils gagnent quand même.
Bah, à la fin, ils sont repris, mais première mi-temps dégueulasse.
Je veux dire merci à Jonathan David quand même.
Ah, merci, là, en l'occurrence, c'est...
Il a fait une saison superbe.
Oui, non. Oui, tu veux dire sur la saison, je pensais ce soir. Ah oui, sur la saison, oui, bien sûr. Non, mais attends, ils sont supérieurs à beaucoup d'équipes. À chaque fois, tu regardes les stats, ils dominent les matchs. Souvent, ils se créent plus d'occasions.
Nombre d'occasions.
Mais j'ai cru ce soir que ça... Quand j'ai vu Nantes Market, j'ai dit, attends, Lille, ils vont pas faire jusqu'au bout... ce qu'on leur a reproché toute la saison, à savoir au moment où il ne faut pas être décevant et se prendre les pieds dans le tapis, aller faire un match de merde où ils vont, je ne les voyais pas perdre, mais genre un vieux match nul un peu moisi. Je dis parce que là, sinon vraiment, c'est genre on te punit sur le dernier match de tout ce que tu as fait toute l'année. Bon, ils ont fait, ils ont retourné le truc quand même. Et là, bah,
ils s'en sortent bien.
Et c'est, et parce que eux, je pense qu'ils avaient objectif d'être quatrième. Ils n'avaient pas objectif d'être podium, ils avaient objectif d'être européen. Et à l'arrivée, avec un parcours un peu cabossé quand même, eh bien écoute, ils ont les cartes en main pour terminer parce qu'ils vont gagner à 3, ils font 4e, on n'en parle plus, au revoir tout le monde. Hein.
Exactement.
Ils auront réussi leur saison. Hein. Derrière, ça va être grand chambardement avec vente de joueurs et tout. Il va falloir reconstruire l'équipe, savoir si Fonseca reste ou pas. Il n'avait pas trop envie de rester, mais bon, peut-être que les temps vont réussir à le retenir. Mais il est.
J'entends
il est
pas
un
avec
peu...
les temps, on rappelle. Hein.
Ouais, mais en plus, il est un peu demandé ailleurs. Mais bah, à l'arrivée, eux, d'un coup, ils vont faire partie des équipes où on pourra dire qu'ils ont réussi leur saison.
Exactement. Ce sera le cas. Et pourtant, ça a été assez moyen.
Le cheminement a été bizarre. Mais moi, je serais content parce que ça récompense quand même un entraîneur qui a, moi, je pense, toujours mis en place des équipes joueuses qui ont toujours voulu aller de l'avant. Il y a plein de matchs où moi je les ai trouvés bons dans ce qu'ils proposaient. À un moment, ça devenait frustrant parce que tu sais, c'est bien beau d'arriver dans la surface et de pas marquer quand il faut marquer. Mais en termes de production de jeu, pour moi, c'est quand même une des meilleures équipes de la saison.
Lionel, t'es d'accord? Tu
oui, 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 entièrement d'accord. Oui, oui. On a même reproché, même mais des supporters lillois disaient pendant un moment, Fonseca, il est pas à la hauteur et tout ça. On s'est battu contre ça en disant non, parce que regardez vraiment, il y a des occasions, le jeu, récupérer la balle à tel endroit et mettre ensuite le ballon au joueur qui doit marquer devant le but. C'était les bons joueurs qui étaient à leur place. C'était David qui était là, qui a eu pendant un moment un petit peu de caca dans le cerveau, qui a mis les ballons à côté, mais sans gardien, sans rien, et c'était pas le seul. Ce dernier geste technique qui est loupé, combien il y en a eu? Des poteaux sortants, des frappes au-dessus, à un mètre du but et tout ça. Ça, c'est pas la faute de l'entraîneur. La faute de l'entraîneur, c'est quand il n'y a pas de jeu, quand tu récupères pas les ballons, tu prends du bouillon, t'as pas d'occasion, t'as pas... Là, c'était tout l'inverse. Il manquait juste la finition. Mais là, à cet âge-là, les mecs, ils sont professionnels, ils sont à mettre devant le but et ils sont tous à leur place et ils mettent pas. C'est un problème de confiance. Bah, ça arrive, mais c'était certainement pas la faute de l'entraîneur.
Et d'ailleurs, puisqu'on parle de Fonseca et de ses envies d'ailleurs et qu'on parlait de l'OM tout à l'heure, lui, je pense que ce serait un super entraîneur pour l'OM.
Ah. Si.
Je pense,
si Longoria voulait le piquer et tout, je pense que ce serait un super entraîneur pour l'OM.
Il serait plus dans le profil avec l'effectif de l'OM actuel. Voir ce qu'il pourrait leur donner.
Je pense qu'il aurait besoin de talents supplémentaires parce que.
Deux ou trois, mais lui, il va gérer l'effectif plus important.
On aura encore l'occasion de parler de l'OM et de faire le fameux bilan, parce que tout le monde aime bien faire ça, les échecs et réussites. Mais tu vois, tu prends une équipe comme Lille, en joueur de ballon, bah, je me demande s'ils n'en ont pas plus de talent joueur ballon que l'OM, par exemple. Tu vois, et peut-être qu'on dira que finalement Tudor, avec son style un peu punchy, genre on fonce un peu tête baissée parfois et tout, je suis pas sûr qu'il s'en soit si mal tiré avec cet effectif où il n'y a pas un talent de dingo, hein. Parce que si tu prends Lille, en joueur de ballon, moi je trouve qu'ils sont plutôt fournis, par exemple.
Non, moi je suis d'accord avec toi, avec ton analyse, Daniel. C'est juste dans la gestion de l'effectif.
Joe David, Cabella, qui ils ont encore. Bamba, en termes de ballon un peu en dessous, mais enfin, c'est quand même un joueur très important dans les accélérations, dans les différences et l'impact. Non, mais tu sais, je parlais plus de créateur de jeu, mais ça enlève rien aux qualités de Bamba. J'aime beaucoup aussi. Mais tu vois, moi, je trouve quand
moi,
même.
Il est moins dans la créativité que Cabella.
Voilà.
Ou...
Mais ouais. Je trouve qu'il y a quand même des bons joueurs dans cette équipe de Lille. Hein,
bien sûr, mais il y a un effectif fourni. Voilà. Il y a un effectif fourni, il a su l'utiliser.
Et ils font 4, ils vont terminer juste derrière l'OM. Donc moi, je pense qu'à l'OM, il y en a moins. Des bons joueurs de foot, il y en a moins.
Dans un instant, Monaco au programme, les gars, parce que là, c'est quand même le bide de la soirée, avant de parler du maintien et de l'Allemagne.
Il n'y a pas de raison qu'ils ne terminent pas en bide.
Et puis, je vous signale que ce soir, le petit club de Luton Town a été promu en Première Ligue en Angleterre.
Voilà. Ouais, c'est important, ça.
Ils vont jouer l'année prochaine contre City.
Luton.
Luton Town, ils ont battu au penalty Coventry ce soir. Donc ils sont promus, Luton Town. Allez, à tout de suite dans l'after, on est là jusqu'à 1h du matin.
RMC jusqu'à 1h.
L'after foot.
Gilbert Bribois.
Il est minuit et 31 minutes, on est là jusqu'à 1h du matin. Ce soir, exceptionnellement dans l'after, après l'avant-dernière journée de Ligue 1, Lionel Charbonnier est là, Daniel Riolo est là, Monaco. Les gars, faut en parler, parce que là, on est un peu sur le symbole de la saison de Monaco. C'est-à-dire, pareil, une déception quasi permanente, changement de dirigeant à venir, les joueurs qui pensent un peu plus sans doute à leur gueule qu'à l'équipe. On a Florent qui est là au 32-16. Salut Florent.
Bienvenue au cirque de Monte Carlo. Encore une présentation. La semaine prochaine, préservez-vous bien pour la prochaine du côté de Monaco, du Monte Carlo. C'est magnifique.
Tous les ans, il y a le festival. Ça existe toujours, ça, tous les ans, le cirque à Monaco. Là,
bien sûr. Attends, en plus, il est de qualité. Hein, c'est un cirque de qualité, le cirque de Monte Carlo.
Ah ouais, non, mais faut réserver vos billets pour la semaine prochaine. Franchement, c'est magnifique, sincèrement. Encore une grande prestation.
Monaco-Toulouse, ça sera Monaco-Toulouse.
Toulouse, on peut mettre en anglais pour nous, non ou pas?
Il y aura des clowns, des acrobates, des mecs font du diabolo.
Ah ouais, non, avec les 11 clowns qu'on a sur le terrain, et surtout,
sixième, ça va pas faire propre, sixième pour Monaco.
Je suis passé la semaine dernière pour parler du match contre Lyon, et j'avais dit je veux qu'on finisse sixième pour applaudir le travail de Monsieur Clément. Depuis qu'il est là, il est arrivé, il a tout bien fait depuis qu'il est arrivé. On a viré que Monsieur Kovac, depuis le départ, malgré qu'il ait fini premier de son groupe d'Europa League. Après une saison un peu compliquée, on peut bien 6 mois compliqués. On met Monsieur Clément, il arrive à nous faire éliminer contre Braga, comme on parlait tout à l'heure, dont parlait Daniel sur les matchs d'Europa League. Il nous fait perdre contre Braga, il nous fait perdre le barrage de Champions League, et on continue toujours. Franchement, ça devient un cirque perpétuel. On parle de Nantes la dernière fois, qui parle que c'est un cirque tout le temps, mais Monaco aussi, c'est pas mal au niveau du cirque. Franchement, j'en ai marre de voir ça. Le match contre Lyon, on mène 1-0 au bout de 13 secondes, on perd le match. Là, aujourd'hui, on n'arrive même pas à mettre un tir cadré. Le seul tir du match, je crois que c'est Ben Yedder, et encore, c'est même pas un tir, c'est une glissade. Donc, franchement, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on veut faire? Et il sort Ben Yedder encore dans le, à un moment important dans le match. Il a plus fait sa doublette Ben Yedder Mbolo depuis un moment. Il veut continuer.
Ouais, ça, il l'a abandonné, ça.
Ouais, mais oui, je sais très bien.
Mais ça marchait trop.
Ça a trop marché. Mais par contre, j'ai un appel d'offre à faire. Lionel, tu veux pas venir à Monaco
Il m'a fait de la peine encore ce soir sur le premier but.
Franchement, t'as l'impression que tu tires, si c'est cadré, ça rentre.
Il a fait une parade parce qu'il a fermé les yeux, je pense. Mais Lionel, s'il te plaît, ou Pascal, reprenez les gants et venez dans les buts de l'AS Monaco. J'aurais un peu plus de sérénité, je pense, dans le cœur. Parce que là, c'est bon, c'est plus possible. Oh là là, j'en peux plus, sincèrement. Et même, je suis sûr que même Daniel, même toi, défenseur central, tu pourrais réussir du côté Monaco.
Moi, j'ai jamais joué en défense, moi. Tu m'as pris
moi, je
ne
joue pas derrière Daniel. Hein. Je voudrais un petit peu plus dans le
milieu. Je ne joue pas en défense, moi.
Non, mais blague à part, c'est vrai que c'est le chantier numéro 1 de Monaco. Il faut absolument trouver un bon gardien.
Ah bah, j'ai entendu qu'il veuille Yann Sommer, alors pourquoi pas, mais voilà quoi.
Le chantier c'est pas un gardien, le chantier c'est pas un joueur, le chantier c'est de savoir qu'ils font quoi dans ce club, ils veulent quoi en fait au fond, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce que veut le président qu'on n'entend jamais, qu'est-ce que veut le directeur sportif qui va partir, qui va rester,
ni anglais ni français, donc c'est compliqué.
Y a personne, on n'entend jamais personne. Est-ce qu'on sait ce que veut ce club, est-ce qu'il y a une communication autour du projet de qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on va pas faire?
C'est la galaxie Red Bull en fait.
Pourquoi c'est pas la galaxie Red Bull? Tu dis ça parce que Mitchell il a bossé là-bas.
Ça y ressemble,
mais il y est pas.
Ça y ressemble.
Ça fait partie de la galaxie Red Bull en fait. C'est parce que j'ai même entendu que si.
Non mais Clément Monaco, ils sont pas dans la galaxie Red Bull. Ils ont des liens avec. Mais c'est
non,
pas pareil.
Non, mais pas ça. Ou à moins que vous vouliez dire qu'ils ont un système de trading et que la priorité c'est de faire du blé sur les ventes de joueurs.
Si c'était un galaxie Red Bull, ils joueraient mieux que ça. Si c'était comme.
Non mais je veux dire que voilà, le prochain entraîneur qu'ils veulent prendre, c'est encore un entraîneur Red Bull, c'est ce que selon les rumeurs que j'ai entendues encore. Donc à un moment donné, je me refais les matchs de 2016 où j'en pleure, mais là ce soir, sincèrement, j'ai préféré regarder Lille-Nantes, vraiment. J'ai préféré regarder Auxerre-Toulouse, les deux en même temps. J'ai regardé le match de Monaco, bien sûr, mais j'étais plus focus sur Lille-Nantes et Auxerre-Toulouse qui m'intéressaient, parce que je savais très bien que je suis à une heure de Rennes, heureusement que j'ai pas payé mon billet. J'aurais fait quoi après à la fin du mois? J'aurais pleuré.
C'est possible, Florent. Bon, après, il y a une solution interne, hein, y a Damien Périnel, hein, c'est l'effet Périnel, ça marche toujours, donc on peut tenter le coup. Mais peut-être un peu jeune, qu'est-ce que t'en penses, Daniel?
Oh, moi je le lancerai, les entraîneurs jeunes. Je le tente.
Ça peut être un Will Steele monégasque.
En mieux.
Exactement. Monaco, voilà, on verra la semaine prochaine. Alors eux, les monégasques, sur les matchs, ils reçoivent Toulouse. Et mathématiquement, c'est encore possible, hein, si par miracle
non,
absolu...
Mais il faut que les autres glissent. Tu vois, je vois pas comment Lille ne va pas gagner contre 3. Donc Lille va terminer 4e. Et la 5e place, c'est quoi? C'est Conférence League, la 5e place?
C'est ça.
Bah ouais.
Bon, bah, elle va se jouer, c'est entre Rennes et Monaco. Et comme... Il a raison, Brest c'est pas fait parce qu'ils sont pas mal en cette fin de saison. Mais s'ils veulent aller les chercher pour être en Conference League, Rennes, va falloir aller gagner là-bas aussi. Ouais, voilà. À Francis, pas de blé.
Parlons maintenant, et je remercie Florent au 32-16, parlons maintenant de la descente. Mon cher Lionel, t'es concerné.
C'est bien la première fois de ma vie, ça.
Tout dépend de Lens. Hein. Est-ce que Lens veut gagner le match ou pas?
Alors, attendez, avant de parler d'Auxerre et Nantes, je précise quand même que donc Strasbourg est officiellement maintenu. Bon, c'était globalement, c'était à peu près le cas avant le match aussi.
T'as jamais été inquiet, toi, cette année?
Je l'ai dit. Est-ce qu'une fois j'ai été inquiet, Daniel?
Non, c'est pour ça que je le dis. Je pense que t'as été serein du début à la fin.
Mais je vais quand même souligner un truc sur Strasbourg. Alors peut-être que ce soir, on a vu le dernier match de Liénard, qui a eu droit à un tifo, 10 ans
et
encore.
Et de Cels
à la hauteur de son histoire.
Alors Cels, l'année dernière, il y avait une belle offre de Cels, notamment de Lille, qui voulait Cels, et le club a refusé de le vendre, il a été prolongé. Donc on verra à l'intersaison la Lionel.
Parce que lui, il a encore été bon ce soir.
Ah bah, c'est un gardien. C'est un excellent gardien.
Lui, il est bon, ouais.
Excellent gardien. Je tiens à préciser la bonne demi-saison de Sanson, qui a été un peu discret, mais très efficace. Et surtout, Strasbourg, cette année, c'est 19 matchs à domicile, 19 matchs à guichet fermé. Pas mal, quand même. Voilà, pour un club qui joue le maintien.
C'est pas que c'est pas mal, c'est beau.
Voilà.
Mais c'est il paraît beau. Que.
Ça a toujours été le.
Il paraît que le président était à Londres ce week-end. Hein.
Ah bah là, ce soir, il était au stade. Donc,
il était au stade.
Je sais pas quand t'as démarré le week-end, mais.
Il était au stade, Marco. Il était dans les tribunes.
Ouais.
Il paraît qu'il a été vu à Londres.
Bon.
Il a fait un aller-retour.
Il y a des négociations en cours depuis longtemps avec des repreneurs. Maintenant, pour l'instant, il n'y a rien de concret à Strasbourg. Il était au stade avec la maire de Strasbourg, qui pour une fois est venue voir un match d'ailleurs. Qu'est-ce que je voulais dire ?
Donc ça veut dire s'il y a repreneur, il prend la Fédé ?
Ouh là là, tu vas loin là. Là, on n'en est pas loin.
Franchement, je ne crois pas, Lionel. Ouais. Je pense que ça ne l'intéresse pas.
Okay. Hein ?
Oui, je pense que ça ne l'intéresse
pas. J'y crois pas, moi, mais bon.
Ok.
Alors, parlons d'Auxerre et Troyes. De Nantes. Prochain match, c'est Nantes-Angers et dans le même temps, Auxerre-Lens. Donc, il y a aujourd'hui 2 points d'avance pour Auxerre. Donc, en gros, une différence de but de moins 26 pour Auxerre et moins 19 pour Nantes. C'est important.
Ça t'enlève 20 points.
C'est important parce que voilà, on pourrait penser qu'un nul pourrait suffire à Auxerre, mais en fait, non. Lionel, donc il faut. Voilà, faudra aller pour gagner contre Lens. Dans quel état sera Lens qui jouera
exactement.
Plus rien. Comment tu vois
Lens, a priori c'est pas Lens, a priori c'est pas possible, sauf s'il baisse le pied.
Ça va être très compliqué, sauf
s'il laisse filer.
Exactement. Ça serait très compliqué, d'autant plus avec l'euphorie, tout ce qui se passe. Moi,
je fais le taf en battant Angers, puis j'attends de voir ce qui se passe ailleurs.
Voilà, maintenant, faut que Nantes soit capable de faire le taf en battant Angers. Angers, c'est pas mirobolant, c'est vrai, mais ces derniers temps, quand même, ils font une deuxième moitié là. Enfin, à partir du mois de janvier, c'est quand même beaucoup mieux. Enfin, beaucoup moins mal que ce que c'était. Ils gagnent encore ce soir, hein, il me semble, Angers. Hein. Dans leur match Angers 3, ils gagnent 2-1.
Ouais, tout à fait.
Ouais, donc. C'est pas fait pour Nantes, mais c'est loin d'être fait pour Auxerre. Ces deux points sont pas suffisants à cause du goal average. Moi, je suis inquiet. J'espérais aujourd'hui, il y a eu 2-3 occasions pour la Auxerre de mettre le but et qui n'ont pas mis. Voilà, beaucoup de regrets hein, pour la JA. J'espère qu'à la fin, on va pas regretter. Ça va être très compliqué. Ça va être très tendu le week-end prochain. Très tendu.
Bon, mais ça veut dire que tu es quand même globalement confiant ou là tu vois.
Non,
je suis pas trop confiant parce que c'est deux points. Pour moi aujourd'hui, c'était aujourd'hui. C'était aujourd'hui qu'il fallait faire le taf, le remettre. Alors bat Lens. Moi, je suis d'accord avec Daniel. Ça risque d'être très compliqué. Et lorsqu'il faut que tu comptes sur tes adversaires pour te sauver, c'est encore plus compliqué dans les têtes. Donc non, je suis pas très confiant, honnêtement. Ça me fait peur, malgré que. Bon, après, on l'a vu, hein, on a vu un bon visage des Auxerrois en deuxième mi-temps contre le PSG. Maintenant, le PSG d'aujourd'hui, c'est
ouais,
pas le Lens
actuel. Toutes les équipes comme ça, dès qu'elles mettent un peu le feu, t'as l'impression qu'elles sont bien. Ça te donne une confiance, qu'en fait une fausse confiance, quoi.
Oui, parce que ça aurait dû se concrétiser. Tu te dis, bon, allez, ils marquent un but, ils ont des occasions contre le PSG, il y a eu Donnarumma qui a fait 2-3 arrêts. Tu te dis, bon, allez, ils vont faire la même chose contre Toulouse. Mais non, contre Toulouse, c'est pas du tout pareil. T'as raison. Donc, on va voir, hein, mais les Auxerrois vont rien lâcher. Moi, j'aime beaucoup cette équipe, quoi qu'il arrive, ils se battent, ils lâchent rien. En tout cas, ils ont moins. J'ai l'impression qu'il y a plus de sérénité, et c'est peut-être le facteur.
Non, l'état d'esprit, il est bon, mais ça sera même peut-être même alors, pas ce suffisant. C'est ça le souci.
Tu sais ce qui peut jouer, Daniel, pour la JA, et fut un temps, j'aurais dit le contraire. C'est que ils ont beaucoup de joueurs en prêt. Et donc, étant donné qu'ils sont en prêt, il y en a beaucoup qui vont retourner, ils savent déjà ce qu'ils vont faire l'année prochaine et tout ça. Ils ont une mission, sauver ce club. Et ils sont vraiment imprégnés de ça. Et donc, ils jouent avec beaucoup moins de pression que si c'était quelqu'un qui jouait sa survie, qui jouait avec son contrat, qui allait être en Ligue 2, qui allait être revu à la baisse et tout ça. C'est tout est différent. Et là, c'est,
moi,
et ça, c'est bravo à Pélissier.
Moi, je pense qu'il y a un truc que tu ne mesures pas vraiment. C'est le caca-culotte possible de Nantes contre Angers, en plus voisin, rival historique, qui en a plus rien à secouer et puis qui joue libéré.
Ah oui, bon, non, mais c'est, voilà, non, c'est fort possible.
Tu peux perdre
4-0
contre Lens et puis te maintenir. Hein. Tu remercieras
oui,
Angers.
Oui, mais c'est ce que je disais. Moi, quand tu dois te enfin compter sur le copain, enfin sur le copain, sur l'adversaire pour te maintenir, vaut mieux que tu comptes sur toi-même. Et tu vois, c'est ça me, c'est ce qui me fait peur moi aujourd'hui, ça me fait peur. Mais je te dis, je relativise parce que je me dis la force de cette AGIA là, c'est que les joueurs n'ont pas la même pression que 80% des joueurs de l'effectif de Nantes. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils vont faire. Il y en a qui vont retourner dans leur club. Ils sont en prêt. Alors, tu aurais pu dire, ouais, mais ils sont en prêt. Ils n'en ont rien à foutre du club de la GIA et tout ça. Et non, c'est là où Pélissier, c'est là où le staff, tout le staff technique a fait un bon travail. C'est qu'ils se sont imprégnés, ces joueurs en prêt, d'une mission. Radou est excellent. Enfin, tous les joueurs qui sont arrivés, six sont arrivés. Il y en a beaucoup qui sont en prêt. Et ben les mecs, ils se sont sortis des, excuse-moi, les... enfin, vous voyez ce que je veux dire, les tripes, et ils ont joué avec leurs tripes, et ils jouent toujours avec leurs tripes et sans pression. Et aujourd'hui, il y a eu quand même des coups du sort. Je me dis, allez, ça peut passer. Tu sais pourquoi? Parce que tu prends une barre alors que t'as le comment? T'as une occasion juste avant de Hein qui loupe l'occasion. Juste derrière, tu prends une barre. Ensuite, dans le même temps, t'as comment? Lafond. Il y a le penalty de Lafond que Lafond arrête à retirer. Et en fin de compte,
Tu vois des signes, tu commences à devenir.
Eh ben, je
un
me
peu
dis,
superstitieux.
Pas super. Bah, tu sais, je pensais à ça beaucoup quand je jouais mes matchs européens et tout ça. Quand on loupait une occasion en Coupe d'Europe, je me disais, putain, attention, prépare-toi la prochaine, faut que tu la sortes parce que l'adversaire va avoir une grosse occasion. Si tu la sors pas, on est mort. Tu vois, c'est que des choses comme ça. Et quand on la mettait, ou alors que je prenais barre poteau dans la même action, là je me disais bon, allez, il peut rien nous arriver. L'année du titre, on tapait de n'importe comment. Il y avait des mecs qui savaient pas taper, ils utilisaient même pas le pied gauche pour monter dans le bus. On tapait n'importe comment, ça tapait le poteau, ça rentrait. Voilà. Et là, tu te dis, il y a des petits signes qui font que ça peut tourner du côté de la GIA. Écoute, c'est le cœur qui parle. Après, j'ai une pensée pour les Nantais parce qu'ils ont eu un drôle de scénario aujourd'hui qui doit être difficile à vivre encore une fois.
Allez, quelques messages sur Direct Studio avant de passer à l'Allemagne. Laurent qui nous dit Lens ne laissera pas filer, d'autant que le match est diffusé à Bollaert à guichet fermé.
Vous êtes cuit, Lionel, alors. C'est fini.
C'est vrai.
Laurent qui ajoute attention, en 98.
Ça fait 15 jours que c'est prévu.
En 98, Lionel. Où Lens est champion, Auxerre avait fait son match et avait battu Lens, donc on fera pas de cadeau. Voilà, il sera même 98, le gars.
Lionel, je pense que vous êtes cuit. Non, c'est Lens. Lens nous bat.
Qu'est-ce qu'il y a?
Moi, je sors en 98, je sors à la 12e minute, un truc comme ça, et Lens doit nous battre et ils viennent gagner le titre chez nous.
Comment ça se fait que tu es sorti? Toi, tu t'es blessé?
J'étais blessé. Ah. Et puis, je peux te dire, je flippais un petit peu parce que je me suis claqué et c'était juste avant la Coupe du Monde.
Voilà, sinon j'ai Hotchup qui nous dit, mais comment se fait-il que Ribolovlev ne parle pas anglais? Ben non, il parle ni anglais ni français, il parle que russe, Ribolovlev. C'est comme ça. Et puis Hussein qui nous dit, et voilà, vous parlez jamais de Clermont, qui a fait une super saison malgré un budget modeste. On n'est pas en Europe, mais tout de même, le fait que Clermont soit là, ça en dit aussi long sur le niveau du championnat. C'est vrai que les Clermontois ont...
Ben voilà, il a tout dit, il n'y a pas besoin d'en dire plus.
Ont encore gagné contre Lorient, bon, vous allez me dire...
Avec un super gardien. Ils ont un duo super gardien qui arrête encore un pénalty. Il n'est pas bon parce qu'il arrête les pénaltys, mais il arrête des pénaltys dans les moments décisifs. C'est vrai qu'il a fait un... Moi, Clermont a fait une très, très belle saison, c'est vrai.
Et puis, j'ai Nabil qui lui dit, n'oubliez pas, concernant l'OM, que l'an prochain, on va récupérer Unai et Harit. Pas faux. Qui vont revenir de blessure. Ça fera un peu de recrue, en quelque sorte. Et puis, une petite info mercato. C'est plusieurs médias qui le relayent ce soir. Marco Asensio, en fin de contrat avec le Real, serait courtisé par le PSG pour l'an prochain. Là, il y a plusieurs clubs qui veulent Asensio, qui est donc libre. Milan, la Juve, Aston Villa. Mais apparemment, Asensio, Paris, ça lui plaît. Donc, à suivre.
Mais Paris, ça plaît à beaucoup de monde.
C'est le club? On a des infos sur ce qui lui plaît? C'est le club où il a déjà téléphoné à des gens pour les restos, tout ça?
Ah, ça, je t'avoue que je ne sais pas.
Non, mais parce qu'Asensio, il a eu des tendances à la vie légère à Madrid. Hein. Parce que ce gars-là, quand il démarre, il a un destin de bombe atomique. Hein. C'est un super joueur au départ. Hein. Il s'est perdu de nombreuses années. Pour moi, ça reste un très bon joueur, potentiellement.
Il a
une tendance à vite s'égarer. Hein. Il va falloir le surveiller à Paris, lui. Hein.
Dans un instant, l'Allemagne, avec la dernière journée du championnat cet après-midi, le Bayern est champion, scénario un peu fou dans cette dernière journée. Je pense que même le Bayern n'y croyait peut-être plus, et puis finalement, ils sont champions. Paulo Breitner nous raconte tout dans quelques instants.
RMC jusqu'à 1h,
l'afterfoot,
Gilbert Bribois.
Il est minuit 49, on est là jusqu'à 1h du matin, encore 10 bonnes minutes ensemble avec Lionel Charbonnier, Daniel Riolo et avec Polo Breitner qui nous rejoint. Salut Polo.
Bonsoir mon cher Gilbert, bonsoir tout le monde. Sur
Internet, alors, Polo, on a vécu ça cet après-midi à 15h30, là, la dernière journée de Bundesliga, avec des buts dans tous les sens, des rebondissements, Dortmund qui était en tête, qui avait quasiment le titre dans la main. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est possible d'arriver à comme ça, à se foirer à la dernière journée, quand pour une fois, parce qu'en Allemagne, quand même, quand pour une fois, tu as l'opportunité d'être devant le Bayern, tu dois la saisir. Ah ben non, ils ont fait 2-2 contre Mayence. Et en plus, il n'y a même pas un joueur qu'en face. C'est dire si normalement, c'est
peut-être... Il y a des maletas en Allemagne. Comment on dit maletas en allemand?
Non. Mais justement, cette journée est extraordinaire parce que c'est une véritable ode à la Bundesliga, parce que la plupart des résultats sont très surprenants, y compris pour les équipes qui n'avaient rien à jouer. Et quand tu vois que le Hertha Berlin, qui est relayé, l'emporte à Wolfsburg, qui perd toute chance européenne, c'est complètement fou. Il s'est passé ça un peu sur tous les terrains de Bundesliga. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ben moi, il n'y a pas d'explication rationnel. Le Borussia Dortmund a sans doute fait son plus mauvais match de la saison à domicile. Rappelons que c'était la meilleure équipe à domicile de la saison. C'est la gestion de l'événement, tout simplement. Et ce qui est dramatique, c'est que, alors que depuis quelques années, on commence à leur faire comprendre que ce sont des gamins, vous savez, rappelez-vous un peu Arsenal et Manchester United à l'époque, donc Dortmund par rapport au Bayern, le scénario catastrophe est arrivé, dans le sens où Mayence ouvre rapidement le score, mais Sébastien Haller rate le penalty qui aurait permis tranquillement de revenir dans la rencontre, puis ensuite on aurait peut-être pu dérouler. Et en fait, le Borussia Dortmund ne s'est jamais vraiment libéré. Alors le scénario fait que de l'autre côté, Cologne voulait se taper le Bayern Munich et est revenu à 1-1, et on a eu un scénario qui fait que Moussiala, qui est sur le banc, entre et marque un but extraordinaire à la 89e minute, qui fait que ça donne le titre pour le Bayern. Mais soyons très très honnêtes, le Borussia Dortmund, j'ai pas envie de dire que c'est une faute professionnelle, mais
si tu vas appeler ça comment sinon, Paulo,
je sais pas, mais
c'est affreux, c'est terrible, c'est une honte. Moi je suis supporter de Dortmund, mais j'ai même pas de regrets. Je me dis, mais mon équipe elle méritait pas le titre si t'es pas foutu de gagner alors que t'as un boulevard devant toi.
En tout cas, les supporters du Borussia Dortmund ont fêté leur équipe, de mon avis, comme il se doit. Mais c'est vrai que ça se répète et c'est un peu pénible, parce que le Borussia Dortmund méritait, à mon avis, ce titre. Ils ont eu une chance. En fait, le problème de ce championnat, il y a quelques semaines, je disais dans l'after que ça devrait se finir à 75 points. On a fini avec deux équipes à 71 points. Et donc, en fait, c'est celui qui ne fait pas la dernière erreur qui va être champion. Le week-end dernier, c'est le Borussia Dortmund qui donne une balle de match. C'est le Bayern qui donne une balle de match au Bayern. Bon, normalement, c'est réglé. Personne n'y croyait en Allemagne. Et on s'est retrouvé dans l'un de ces scénarios qu'on avait vu en 2000, 2001, etc.
Oui, ça a rappelé les Leverkusen, non?
Ouais, c'est les Leverkusen.
Et
2000,
ça rappelle la loserie de Leverkusen, en fait.
Exactement. Et en fait, j'ai le sentiment que le Borussia Dortmund est en train de récupérer un peu la casquette de Leverkusen.
Ah, le chat noir de Leverkusen.
Voilà, exactement. Et c'est vraiment... Alors, il y a une chose, c'est que la bonne nouvelle, de mon point de vue, c'est très mal analysé à mon avis en Allemagne, mais c'est que pour la première fois depuis des années, on a eu un Bayern normal, donc on a un champion normal, 71 points, on est revenu dans les standards d'avant 2010, j'ai envie de dire. C'était normal, parce qu'on oublie toujours ce qui est devenu le Bayern Munich sur la dernière décennie, avec Pep Guardiola, Jupp Heynckes, avec des champions de bien avant la dernière journée, évidemment, et qui tournaient à 90-91 points, ce qui était énorme pour l'histoire de la Bundesliga. Et là, c'est un champion normal à 71 points. Mais c'est vrai que tu te mets du côté du Borussia Dortmund, et je pense en plus, au-delà du titre, mais comment vont-ils se relever pour recommencer l'année prochaine? C'est-à-dire que là, je vois pas, les mecs sont abattus, évidemment Terzic pleurait dans tous les sens, tout le monde pleure à Dortmund.
Oh là, mais... t'aimes pas ça toi Polo, hein. Qu'est-ce que
non,
c'est que ça?
Déjà, j'aime pas ça.
Toutes ses larmes et ses manières et ses petits bras dans tous les sens.
C'est vraiment fatigant.
Ah, on n'est pas dans la grande Allemagne. Hein.
Ah oh là, c'est dramatique. Mais...
qu'est-ce que c'est que ces chouineurs là?
C'est des chouineurs, il y en a partout. C'est Kimmich qui pleure à Wembley en 8e contre les Anglais, c'est insupportable.
C'est pas possible.
C'est vrai que tu te dis, mais qu'est-ce qu'il leur faut pour être champion? C'était là. On peut revenir à 2019.
Ce qu'il leur faut, c'est peut-être les Aktentasche, J'ai trouvé comme on dit mallette, malletas. Mayence, attends, Mayence, ils ont pris des Alcantache aujourd'hui pour jouer aussi bien alors qu'ils n'avaient rien à jouer, non ?
Non, non, mais c'est comme ça. C'est moi, je trouve ça, c'est bien que
Mayence. Monsieur Riolo, dans la mentalité allemande, il n'y a pas de Alcantache, il y a le respect du maillot et de l'employeur. Voilà. N'est-ce pas, Polo ?
Je suis pas sûr de la prononciation. Alcantache.
Mais au passage, pour l'employeur au Bayern Munich, c'est compliqué.
On va en parler.
Ah oui, il faut que tu nous dises, là, tout le monde s'est fait virer, là, du coup.
Ah oui. Donc c'est, je trouve ça extraordinaire.
Comme
donc,
quoi on peut être champion et on peut virer tout le monde. Comme quoi à chaque fois quand je vous dis le résultat ne dit pas tout. Eh oui. Et ils sont champions au terme d'un scénario totalement
surtout,
rocambolesque.
Truc,
et ils virent tout le monde. Et l'autre là, nous on a l'autre là, le porteur de doudoune là. Il vient. Bah ouais, non, moi je suis champion, je mérite de rester. Allez, au revoir monsieur. Barrez-vous. Non, tout le monde dehors.
Raconte-nous pour le Bayern la conjonction d'événements. C'est-à-dire que le Bayern est champion. Oui. Et en fait, quelques minutes plus tard, on apprend Kahn et Salihamidžić virés. Les mecs, ils rigolent pas, il n'y a pas de célébration.
Il y avait un autre événement qui était important et qui faisait qu'il y avait des réunions à Munich, c'est qu'Oliver Kahn, donc le CEO du Bayern Munich, le président, un successeur de Rummenigge notamment, n'avait pas été autorisé, avait été interdit de se déplacer à Cologne. Donc il allait se passer quelque chose.
Ouais. Donc, et il a tweeté, le club m'a interdit de venir. Mais qui
voilà. Ça voulait dire je suis dehors. Hein.
Le mec est président, donc, dans ces cas-là, Polo. Qui va voir Oliver Kahn, qui est quand même, tu vois, le mec fait un peu peur. Qui va voir Oliver Kahn et lui dit
il te fait peur à toi, mais.
Tu restes ici, t'es interdit d'aller à Cologne.
Oui. C'est le conseil de surveillance. Ce qui se dit en ce moment, c'est que Uli Hoeneß, qui a nommé, a été pour le fait qu'Oliver Kahn et Salihamidžić soient
là. C'est Uli Hoeneß qui bosse, il passe un coup de fil.
Mais bien sûr, il passe un coup de fil et c'est fini.
Peut-être même il envoie un SMS. Uli Hoeneß, un SMS, ça suffit.
Oui, je ne suis même pas sûr qu'il connaisse le SMS, mais il a d'autres
moyens. Il est comme Noël Le Graët. Noël Le Graët, en plus, il ne savait pas les SMS.
Et non, mais en fait, ça fait un moment que ça tournait, qu'on ne savait pas comment ça allait se finir, qu'il y avait des choses. Mais je vais vous dire, moi, autant Salihamidžić, je comprends très bien qu'il ait été remplacé et qu'il arrête dans ses fonctions. Ça ne me dérange pas trop par rapport à sa communication qui est dramatique. Mais il y a Oliver Kahn, qui est quand même donc le président du Bayern Munich, hein, pas le président de l'association. Rappelons qu'en Allemagne, l'association détient la société commerciale et détient 75% du capital de la société commerciale. Donc ça, c'est Herbert Heiner. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que lorsque tu analyses Oliver Kahn, tout ce qu'il a fait depuis qu'il est arrivé en tant que président du Bayern, il est en fait toujours resté dans son caractère la même chose qu'il était lorsqu'il était joueur. C'est-à-dire qu'il est dans le duel systématique. Il a fait un tweet en disant, une fois qu'on lui a fait comprendre qu'il n'était plus le patron, que c'était évidemment le jour le plus triste de sa vie, mais surtout, il dit dedans, on m'a empêché d'aller fêter avec mon équipe. Mais quand t'es président du Bayern, t'es pas là pour aller fêter les titres avec le sportif, il y a des gens qui sont faits pour ça. Toi, t'es là pour gérer. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Oliver Kahn?
Comme c'est froid, ça.
Mais non, mais c'est vrai. Et qu'est-ce qu'il fait à chaque fois qu'il y a eu des petits problèmes? T'es pas là pour faire la fête avec les joueurs, c'est pas ton boulot. Et il est resté très joueur. Et il est resté finalement dans sa communication très joueur, à tel point qu'à chaque fois que ça n'allait pas au Bayern Munich, donc on va dire période avant Nagelsmann, quand on a commencé à se dire qu'il y avait des problèmes avec lui, puis après, il passait son temps à tweeter, non, je suis pas content du niveau de l'équipe, mais on te demande pas à chaque fois qu'il y a un résultat de faire un commentaire. Si tu sens qu'au bout de 10 matchs ça va pas, tu changes d'entraîneur ou tu changes de directeur sportif. C'est ça ton boulot. C'est pas de dire ça va pas, je fais une guerre personnelle contre les médias ou l'inverse. Ça c'est bien, pourquoi j'ai choisi Nagelsmann, pourquoi Nagelsmann est parti, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et je pense qu'il a pas compris, en fait, et il est à l'image du titre de sa biographie. C'est moi. Or, quand tu es patron du Bayern, c'est pas toi. Il y en a qu'un seul au Bayern, en Bavière, qui peut dire ça, qui peut se permettre de dire ça.
C'est
Uli Hoeneß. C'est le seul.
Il est là, le roi de la saucisse.
Il n'y a que lui. Les autres, ce sont des faire-valoir.
Bon, donc, Polo, le temps passe. Oui.
Il ne reste pas président à vie, puis comme
j'aimerais
ça, on arrête un peu toutes les conneries.
Donc, Leipzig, 3e, étant en Ligue des Champions. Et donc, c'est l'Union Berlin, ton club, qui a confirmé.
C'est la vraie grande news, hein, Polo, pour toi.
Oui, là, moi, je vois la progression depuis 3 ans. Donc, c'est bien, mais c'était prévisible.
Et chapeau
4,
tu as vu les équipes qu'il va y avoir dans le chapeau 4 l'année prochaine, quand même.
Ah, bah, donc, ils ne joueront pas contre Lens, qui sera chapeau 4 aussi.
Bah, ouais, mais Fred, il a dit qu'on allait se retrouver en 8e. Donc.
Si Fred l'a dit, alors. Non, mais chapeau 4, t'as Newcastle l'année prochaine, t'as l'Union Berlin, quand même.
Enfin, nous, c'est pas une grosse équipe, hein, l'Union de Berlin.
Ça va, alors, Fribourg,
ça va être facile
Ligue,
à manœuvrer, Fribourg, pour comme équipe.
Leverkusen, Conference League. Et...
Non. C'est Fribourg, cinquième en Europa, en Europa League. Ouais. Le sixième, c'est pour l'instant, c'est Leverkusen, et le septième, c'est Francfort, mais ça dépend du résultat de Coupe d'Allemagne entre Francfort et Leipzig. Donc, en gros, si Francfort gagne la Coupe d'Allemagne, il passe en Europa League et Leverkusen passe en Europa Conference League. Et si Francfort s'incline en finale de Coupe d'Allemagne, eh bien, ce sera Leverkusen qui ira en Europa League. Et Francfort, qui est septième, là, merci Wolfsburg, qui sera en Europa Conference League.
Et Schalke redescend.
Schalke, c'était un peu prévisible lorsque tu vois l'effectif en début de saison. Moi, je trouve que c'est encore une fois, c'est. Il faut se rendre compte du niveau de la Bundesliga et des équipes. C'est-à-dire, encore une fois, il y a 18 clubs, il n'y en a pas 20, comme en France, par exemple.
Ah non, l'année prochaine, on est à 18, nous aussi.
Ah ouais, vous êtes à 18, mais ça va faire tout drôle. Ça va faire tout drôle, parce que là, tu es forcé. Faut voir les deux équipes qui descendent cette année. C'est le Hertha Berlin et Schalke et Stuttgart. Donc, je rappelle tout le temps, moi, pas, je peux très bien parler des budgets ou du chiffre, mais c'est un stade de 75 000 places qui descend, tu en as un autre de 63 000 places qui descend, et tu en as un autre de 60 000 qui va jouer les barrages. Et en bas, il y a de grandes chances que ce soit Hambourg, le barragiste, un stade de 57 000 places. Donc, il faut se rendre compte le niveau, en fait, de la densité de ces équipes-là, et pourquoi le championnat allemand est très compliqué chaque année. Et encore une fois, on a souvent parlé avec Daniel, lorsque tu remportes trois matchs à la suite, tu te retrouves dans les places européennes. Lorsque tu perds trois matchs à la suite, tu te retrouves tout de suite, tu regardes derrière toi pour voir si tu ne vas pas descendre. Et ça, c'est l'énorme avantage d'un championnat à 18. Parce que tu n'as pas de ventre mou, en fait. Moi, j'adore ça. Donc, par rapport à ça, l'Union, c'est évidemment une énorme surprise. Et ça continue un peu l'anomalie statistique depuis 3 ans maintenant, à force d'être en Europe. Ça va être évidemment très compliqué de continuer comme ça, mais c'est un véritable petit exploit. Et puis, bravo au Bayern, quoi. C'est tout.
Exactement. Merci, Polo.
Merci.
Bonne nuit. Demain, l'after sera là après le rugby. Il y a rugby demain soir avec le top 14 et il y aura un after aux alentours de 23h jusqu'à minuit. Merci Daniel, merci Lionel.
Ciao.
Matin, n'oubliez pas d'aller sur afterfoot.media. Il y a de belles offres pour vous abonner à la revue de l'after, moins 40%. Puis on peut en plus débattre sur le site de la revue. Donc ça vous permet de continuer l'after avant demain soir. Bonne nuit et à demain. Bye bye. Et puis tiens, on vous laisse avec l'émission religieuse d'RMC dans quelques instants.
RMC, l'after foot.